Voilà. Bonsoir à chacun et chacune. Donc c'est une grande joie pour moi d'accueillir Monseigneur Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis, qui vient donc nous partager ce soir à partir de son diocèse, de la réalité de son diocèse, qu'est-ce qu'on peut dire d'une église pauvre pour les pauvres. Voilà, qui est un petit peu le leitmotiv de nos journées d'études ici. Hein. Avant cela, on m'a demandé de dire quelques mots sur des livres que vous pouvez trouver à la sortie, dans lesquels, disons, qui comptent comme auteurs des intervenants dans ces journées d'études. Alors, vous avez un petit ouvrage sur les récits de vie des plus pauvres, écrit par Laure Blanchon, « Paroles de vie pour tous », à partir d'expériences, disons, de ce travail de recueillir des récits de vie des personnes très pauvres et de voir comment ça peut être une source pour la réflexion et pour la vie chrétienne aussi. Voilà. Dans la même collection, un livre de Claude Cosnard et Guénola Rimbaud qui intervient aussi dans la journée d'études. La joie de l'évangile est pour tous. C'est un livre sur expérimenter le partage de la parole avec les plus pauvres. Voilà. Toujours dans la même collection, un petit livre que j'ai fait avec un autre jésuite qui s'appelle Vincent Lassève, en prenant deux exemples de paroisses qui ont réussi à ce que des personnes marquées par la grande précarité soient vraiment partie prenante de la vie paroissiale. Donc, il s'intitule « Vers des paroisses plus fraternelles ». Voilà. Après, un petit livre de Martin Mayer, qui a fait une conférence aujourd'hui, sur Pedro Arrupe, supérieur général, témoin et prophète. Véronique Albanel, qui a animé cet après-midi un atelier sur la question des réfugiés, qui vient de sortir cet ouvrage-là, La fraternité bafouée, avec comme bandeau, là, Sortir de la peur du grand remplacement. Je vous signale aussi un numéro de la revue Lumen Vitae, sur les options de la catéchèse en Amérique latine, de Medellín à Aparecida et jusqu'à nos jours. Et parmi les auteurs, vous avez Luis Martinez Saavedra qui intervient, qui écrit, donc qui est intervenu aujourd'hui. Hein. Voilà. Un gros ouvrage de Thierry Monfils au sujet de Joseph Rzezinski. C'est un peu une mine pour découvrir la pensée et la théologie de Joseph Rzezinski. Voilà, le père Joseph Rzezinski, sacerdoce et amour des pauvres. Et puis, on m'a signalé aussi qu'il y aurait une édition commentée du texte du Vatican sur les finances, qui sortira aux éditions Lessus. Et en attendant, vous pouvez trouver ce petit livre qui est le texte sans beaucoup de commentaires, je pense. Voilà. Mais Lessus fera bien mieux, évidemment. Voilà. Alors, un tout petit mot pour vous présenter le père Delannoy. Il est originaire du nord de la France, du diocèse de Lille. C'est donc un ch'ti. Voilà. Diocèse de Lille, où vous avez été auxiliaire, avant d'être nommé évêque du diocèse de Saint-Denis en 2009. Et vous êtes également vice-président de la conférence épiscopale des évêques de France. Le diocèse de Saint-Denis, je crois qu'on peut dire qu'il n'est pas banal. Il est situé juste au nord de Paris. Il compte 1,6 million d'habitants, ce qui est quand même assez considérable. Je crois que Paris fait 2 millions d'habitants. Saint-Denis, 1 600 000, hein, c'est pas beaucoup moins finalement, dont une forte proportion de la population qui est issue de l'immigration. Tout à l'heure, on discutait pour savoir combien il y avait de nationalités différentes dans le département de Saint-Denis, et vous disiez, on peut dire plus que 150, en étant sûr de ne pas se tromper. Voilà. Et donc, ça fait aussi une grande pluralité religieuse, avec notamment une forte proportion de la population musulmane, mais aussi beaucoup d'églises évangéliques. Il y a des coptes, il y a disons, des églises, enfin, il y a aussi des traditions religieuses d'Orient, etc., qui sont représentées. Hein. C'est aussi, je vous le disais déjà ce matin, mais c'est le département de France métropolitaine avec les revenus par habitant les plus bas, et qui est frontalier des deux départements avec les revenus les plus hauts, Paris et les Hauts-de-Seine. Voilà. Donc on est, disons ça, ça dit quelque chose des tensions qu'il peut y avoir aussi autour disons dans l'Île-de-France. Et du coup aussi des tensions qu'on va retrouver à l'intérieur du département du diocèse de Saint-Denis. Hein. C'est un territoire avec beaucoup de jeunesse, sans doute qui compte parmi les départements aussi avec la moyenne d'âge la plus jeune, je pense, hein. Mais avec aussi une forte proportion de jeunes qui ne trouvent pas de chemin d'avenir autre que les trafics et la petite délinquance. Voilà, c'est un territoire, le diocèse de Saint-Denis, qui compte de nombreuses zones de non-droit, où ce sont les bandes organisées, disons, qui occupent l'espace, quoi. Et il y a quelques jours, il y a eu un jeune de 16 ans qui a été tué à Saint-Denis dans une affaire de rivalité entre bandes. Hein. Voilà. Et au milieu de tout ça, il y a une église catholique qui vit, qui grandit, qui prie, qui se tourne vers Dieu pour s'en remettre à lui ou pour rendre grâce. Voilà. J'ai moi-même vécu 11 ans dans Seine-Saint-Denis, au milieu de cette église, et ça a été une très grande joie. Et c'est pourquoi je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir au Centre Sèvres, Père Delannoy. Vous allez nous partager un peu ce dont vous êtes témoin et comment cet appel à une église pauvre pour les pauvres résonne dans ce contexte-là. Très grand merci à vous.
Bonsoir à tous. Merci de votre présence alors que vous avez déjà eu une journée bien occupée où votre écoute a été beaucoup sollicitée. La pauvreté, au sens de la misère, je pense qu'il faut le dire et le redire, la pauvreté au sens de la misère est toujours un drame, car elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Comment définir la pauvreté? Je crois que la pauvreté, c'est un état de manque. C'est une expression qu'on entend souvent dans la bouche des personnes droguées. Je suis en état de manque quand elles ne réussissent pas à se procurer la drogue souhaitée. Quand on est pauvre, on manque de quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être l'affection, ça peut être la santé, ça peut être la culture, ça peut être le spirituel. Dans sa lettre pour la première journée mondiale des pauvres en 2017, le pape François écrivait « La pauvreté nous interpelle chaque jour par ses 1000 visages marqués par la douleur, par la marginalisation, par l'abus, par la violence, par l'ignorance et par l'analphabétisme, par l'urgence sanitaire et par le manque de travail. » La pauvreté en Seine-Saint-Denis nous interpelle chaque jour. Chaque carrefour, et je parle là non pas des carrefours que nous pratiquons souvent dans notre église, mais des carrefours qui sont constitués par l'intersection de rues, chaque carrefour est souvent aujourd'hui un lieu de mendicité. Mais la pauvreté en Seine-Saint-Denis n'est pas que financière, même, et ce n'est pas rien, même si plus du quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Je vous rappelle le chiffre national en France, selon l'INSEE, 14% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est quasiment le double dans le département de la Seine-Saint-Denis. 1,6 million d'habitants, le quart sont en dessous du seuil de pauvreté. En Seine-Saint-Denis, au-delà de la pauvreté financière, comme partout, il y a d'autres formes de pauvreté, mais elles sont peut-être plus accentuées dans ce département. Je pense tout d'abord à la pauvreté affective. Les familles monoparentales représentent 21% des familles en Seine-Saint-Denis contre 14% pour la France. Et vous le savez, quand on parle de famille monoparentale, c'est un euphémisme pour désigner souvent, très souvent, une femme seule avec 3, 4, 5 enfants. Beaucoup d'enfants connaissent ainsi la pauvreté de ne pas avoir de mère, mais bien plus souvent de ne pas avoir de père. Autre pauvreté, le père Grieux y faisait allusion, le chômage. Le taux de chômage est à peu près de 18%, c'est le plus fort de l'Île-de-France, avec un taux de plus de 30% chez les 15-24 ans. Et si nous allons dans certaines cités du département, nous pouvons arriver à des taux de chômage de 30-40%. Le chômage est dramatique. Il est dramatique au moins pour trois raisons. Tout d'abord, nous privons toute une génération des ressources qui lui permettraient de penser et de fonder des projets. Deuxièmement, notre société est en train de dire tranquillement à toute une catégorie de jeunes qu'elle n'attend rien, absolument rien d'eux, sinon d'être de bons consommateurs. Et enfin, la troisième raison, c'est que le chômage, évidemment, pousse toute une catégorie d'adolescents et de jeunes vers l'économie parallèle, notamment vers le commerce de la drogue, qui est estimé en Seine-Saint-Denis à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et beaucoup disent que cette estimation est largement inférieure à la réalité. Autre pauvreté, le logement. Vous avez peut-être vu à la mi-septembre cet article qui est paru dans le journal La Croix. Le titre, en Seine-Saint-Denis, les logements du 115 sont saturés. Le 10 septembre, nous dit-on, le standard téléphonique du 115-93 a sonné 3620 fois. C'est un chiffre qui est donné pour une seule journée, hein, 3620 fois. Seuls 300 appels ont trouvé destinataire. Cet article également fait allusion à des femmes qui sont sorties de maternité avec leurs enfants et qui n'ont pu trouver d'hébergement. Et nous savons très bien qu'en Seine-Saint-Denis, les délais où les femmes restent à la maternité sont en général allongés pour tenir compte des conditions de vie difficiles de ces jeunes mères. Le logement est un véritable problème dans ce département. Il y a du logement insalubre et il y a aussi, bien sûr, tout le fléau des marchands de sommeil. Et là, nous tombons dans l'exploitation de la misère. Voilà, les marchands de sommeil. Pour vous parler des marchands de sommeil, je voudrais vous lire un court passage du rapport parlementaire qui a été déposé à la fin du mois de mai au Parlement, qui a été rédigé par deux parlementaires et qui porte sur l'insuffisance de l'État dans le département de la Seine-Saint-Denis. Je vous lis le texte, sinon vous n'allez pas me croire. Ces trafiquants d'un nouveau genre sont d'ailleurs de plus en plus présents dans les procédures judiciaires de vente immobilière pour acheter à bas prix des biens qui leur permettent d'accroître leur offre de logement. Un F3 acheté dans ce cadre ne coûte en effet que 5 000 à 7 000 euros et peut être loué à la découpe 400 euros par mois pour les petites pièces et 700 euros pour la plus grande. Vous voyez cette exploitation de la misère. vous achetez un F3 et vous mettez dans votre F3 trois familles. Montant du loyer, 400 à 700 euros. On mesure alors la rapidité du retour sur investissement. Le profit des marchands sommeil est en outre varié, car les possibilités d'enrichissement sont illimitées et difficilement détectables. Il peut s'agir de familles étrangères qui se spécialisent dans l'offre locative auprès de compatriotes, de Français de classe moyenne, ou alors de Français de classe moyenne qui profitent de la situation, et c'est ici qu'il faut le lire pour le croire, comme ce membre de la police aux frontières, dont on a découvert qu'il était propriétaire de 55 logements au Chêne Pointu, une grande copropriété de Clichy-sous-Bois. Le terreau sur lequel prospèrent les marchands de sommeil est étudié au plan local, notamment par des services municipaux ou des cabinets de conseil. Le taux de parc privé potentiellement indigne atteindrait ainsi 7,5% en Seine-Saint-Denis, avec des points de 20 à 40% près de Paris. Une dernière forme de pauvreté que je voudrais vous partager, en sachant que bien d'autres seraient probablement à ajouter, c'est toute la pauvreté liée à l'insécurité. Le père Grieux faisait allusion également tout à l'heure, nous avons un certain nombre de cités qui sont devenues des zones de non-droit. À la rentrée judiciaire, au mois de janvier, Madame la procureure de la République a eu un discours très réaliste sur le département, a estimé que sur les 120 cités, le quart étaient des zones de non-droit. Je vous lis à nouveau un extrait du rapport. Tous les faits d'incivilité et de nuisance qui contribuent largement au climat d'insécurité que ressentent les habitants, comme les occupations de halls d'immeubles, y échappent. De même, la rigidité de l'outil limite l'enregistrement de 107 à 107 infractions. Celles commises en milieu familial ou par le vecteur d'Internet n'y sont pas recensées. Donc voilà toute cette pauvreté liée à un climat d'insécurité, jamais agréable quand vous rentrez chez vous, d'être obligé de décliner votre identité et de dire que vous rentrez chez vous et que vous habitez le troisième ou le quatrième étage. Au-delà de ces pauvretés qui, dans le département de la Seine-Saint-Denis, touchent les personnes, et encore une fois, ce que je viens de dire n'est pas limitatif, il faut, je pense, évoquer d'autres pauvretés présentes en Seine-Saint-Denis, mais des pauvretés que je qualifierais de pauvretés structurelles. Des pauvretés structurelles dans le domaine de la justice, de l'éducation et de la santé. À nouveau, ces pauvretés, ces insuffisances ont été mises en lumière dans le rapport d'information parlementaire sur l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis. Suite à la publication de ce rapport, le journal Le Parisien titrait d'ailleurs le 93 ou le 93, territoire abandonné, point d'interrogation. Quelques exemples tirés du rapport pour montrer quand même l'ampleur du séisme. Voilà ce qu'on nous dit du tribunal d'instance d'Aubervilliers. Je vous rappelle qu'Aubervilliers est l'une des villes les plus pauvres du département. Le tribunal d'instance d'Aubervilliers compte en théorie 2 magistrats et 11 personnels administratifs, greffiers, adjoints. Au cours de l'été 2017, la présidente du tribunal dut faire face à une pénurie de personnel dramatique. La directrice du greffe, 2 greffiers et 3 adjoints ont quitté le tribunal sans être remplacés. À ces départs sont venus s'ajouter 2 arrêts maladie de longue durée, imputables à la surcharge de travail. Au final, l'activité du tribunal reposait sur 2 magistrats et 3 personnels administratifs effectivement en poste. Si vous n'avez pas oublié les chiffres de départ, nous étions à 13 personnes. À l'arrivée, nous arrivons à 5 personnes. Conséquence de cette pénurie, s'ajoutant de précédentes difficultés, le délai d'audiencement au tribunal a été porté à 12 mois contre 2 à Paris. 12 mois pour que votre affaire soit entendue et jugée. Il faut bien mesurer combien cet allongement des délais de justice a des répercussions immédiates sur les justiciables. Ainsi, un propriétaire qui a engagé une procédure pour loyer impayé doit pouvoir assumer les charges de copropriété normalement dues par le locataire pendant de longs mois, au risque de voir le syndic de copropriété se retourner contre lui. À une situation d'impayé, la justice est susceptible de créer une seconde situation d'impayé de par son incapacité à juger rapidement de l'affaire. Cette lenteur génère des stratégies d'évitement de la justice par certains propriétaires qui n'hésitent plus à procéder à des expulsions sauvages sans aucun fondement juridique et sans aucune protection des locataires défaillants. Vous voyez donc comment la lenteur de la justice peut faire tomber les personnes dans la spirale de la pauvreté, puisque les personnes qui attendent leur revenu ne l'ont pas, et comment la lenteur de la justice provoque aussi une accélération de la violence, puisque lorsque l'on parle d'expulsion sauvage, croyez-moi, on ne vire pas les gens en leur proposant d'aller prendre une tasse de café sur la Grand Place. Encore quelques lignes, sans abuser de votre patience. Confrontée à une situation de crise, la présidente du tribunal d'instance prit la décision de fermer l'accueil du public et le service de nationalité française afin de concentrer ses faibles ressources humaines sur le traitement des contentieux. Cette décision de fermer l'accueil au public et le service de nationalité française, cette décision prive les 230 000 habitants du ressort du tribunal de la capacité à passer des concours ou d'aller enterrer un proche dans son pays d'origine. Vous voyez donc là aussi les conséquences sur la pauvreté. Si on ne peut pas passer de concours, on n'a pas accès à l'emploi. Il ne suffit pas de passer un concours pour avoir accès à l'emploi, mais c'est quand même une porte d'entrée. Et bien sûr, comment on fait progresser aussi la pauvreté affective en empêchant d'assister aux funérailles d'un proche. La pauvreté liée aux insuffisances de l'État est due aussi au manque d'enseignants et à l'inexpérience des enseignants. Aujourd'hui, nous avons une crise des enseignants, au sens où on a du mal à trouver des enseignants en France. Alors imaginez qu'en Seine-Saint-Denis, trouver des enseignants devient un exercice redoutable. « 35,7% des professeurs des écoles primaires restent moins de 2 ans dans leur établissement, contre 26% en moyenne en France. 35,26. Cette part s'élevant dans le second degré à près de 50% contre un tiers de moyenne nationale. Dans les collèges éducation prioritaire, il est fréquent que plus de la moitié des professeurs et moins de 2 ans d'ancienneté dans l'établissement, le turnover peut concerner dans certains cas entre 40% et 75% des équipes de ces établissements et peut-être supérieur pendant 3 années consécutives à 65% par an. Or, chacun reconnaît que sans stabilité des personnels, aucun dispositif pédagogique ou éducatif n'est en mesure d'améliorer le climat ou la réussite scolaire dans un établissement. Donc non seulement il est difficile de trouver des enseignants, mais les enseignants ne restent pas, et cela, bien sûr, porte préjudice à la qualité éducative, à l'enseignement donné. Je terminerai par une allusion, bien sûr, au manque de médecins, plus largement au manque chronique des professions médicales. Pour citer un seul chiffre qui concerne la médecine scolaire, toujours le même rapport dit que la médecine scolaire est en crise en Seine-Saint-Denis. Est en crise en Seine-Saint-Denis. L'académie de Créteil peine à recruter des médecins scolaires, surtout en Seine-Saint-Denis, qui compte 50% de postes vacants. Leur effectif n'ont cessé de diminuer dans ce département, de 38 médecins en avril 2008 à 19 en juin 2017. Depuis, ils ont augmenté pour atteindre 24 fin 2017, avec un ratio de 12 à 13 000 élèves par médecin. 12 à 13 000 élèves par médecin. Vous voyez bien comment nous rejoignons toute la question de la pauvreté. Toutes ces pauvretés que j'ai appelées des pauvretés structurelles influent bien sûr sur les pauvretés personnelles. C'est cela le drame. Elles les amplifient ou les prolongent, ce qui est évidemment tout à fait dramatique. Voilà rapidement brossé un portrait de la pauvreté dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ce département, l'Église est présente. Comment définir une Église pauvre? Comment la définiriez-vous? Je crois qu'une Église pauvre, c'est une Église qui, elle aussi, reconnaît qu'elle est en manque, qu'il lui manque toujours quelque chose. Je crois qu'une Église pauvre, c'est une Église qui se reconnaît vulnérable. Une Église qui ne prétend pas tout savoir et encore moins tout résoudre. Une Église pauvre, c'est celle qui recherche le bien de l'homme avec tous ceux qui le recherchent et qui se réjouit lorsque ce bien progresse en elle ou en dehors d'elle. À ce propos, je voudrais à nouveau citer le pape François dans sa lettre pour la Journée mondiale des pauvres. Je cite « On ne compte plus les initiatives que la communauté chrétienne prend quotidiennement pour manifester sa proximité et soulager tant de formes de pauvreté que nous avons sous les yeux. La collaboration avec d'autres instances qui ne sont pas animées par la foi mais par la solidarité humaine permet d'apporter une aide que nous ne pourrions pas réaliser seuls. Dans ce monde immense de pauvreté, reconnaître les limites, la faiblesse et l'insuffisance de nos moyens invite à une collaboration réciproque qui nous permet ainsi d'être davantage efficaces. » Fin de citation. Oui, je crois vraiment qu'une Église pauvre, c'est une Église humble, qui essaie d'écouter avant de parler, qui essaie de discerner avant d'agir, et qui humanise autant qu'elle sacralise, puisqu'elle croit, comme nous le chantons souvent, que tout homme est une histoire sacrée. Ceci étant dit, comment essayons-nous d'être une Église pauvre pour les pauvres en Seine-Saint-Denis? Comment essayons-nous de répondre à ce défi pastoral avec les moyens qui sont les nôtres? Pour moi, la réponse peut se résumer à trois verbes. Créer, libérer, aimer. J'aime beaucoup ces trois verbes parce qu'ils ne cessent de parcourir la Bible. Et dans la Bible, ces trois verbes ne se succèdent pas, mais ils ne cessent de se croiser et de se féconder mutuellement. Je vais les séparer par pédagogie, mais vous sentirez très vite qu'il est impossible de les séparer. Créer, nous pourrions dire aussi imaginer, inventer. Devant la pauvreté, ne pas baisser les bras, mais toujours se poser la question « que pouvons-nous faire ?» même si cela paraît insignifiant, même si cela est une petite goutte d'eau dans l'immense océan de la pauvreté. Depuis quelques années, nous essayons de développer des communautés de quartier pour répondre à l'isolement qui est durement vécu par des personnes. Cet isolement consiste à ne pas pouvoir parler, à ne pas pouvoir partager ses joies, ses questions, ses espérances, ses inquiétudes. Une communauté de quartier se propose de réunir quelques chrétiens ou quelques personnes en recherche pour un temps d'échange, un temps de prière, un temps d'accueil de l'Évangile. Communauté de quartier parce qu'au plus près de l'habitation des personnes, car en Seine-Saint-Denis, un foyer sur deux, un ménage sur deux n'a pas de voiture, et se déplacer le soir quand on n'a pas de voiture, cela demande beaucoup de temps et de fatigue. Depuis quelques années aussi, nous essayons de développer l'hébergement solidaire dans nos paroisses. L'hébergement solidaire consiste à accueillir des familles, souvent ce sont des familles qui nous sont envoyées par le Secours catholique qui travaille lui-même avec le 115, le SAMU social. L'hébergement solidaire consiste à accueillir des familles de novembre à mars, de les épauler, de les aider. Cet hébergement solidaire a permis aussi à un certain nombre de paroissiens de découvrir de nouvelles formes de pauvreté. Quand nous avons commencé à pratiquer l'hébergement solidaire, je crois que beaucoup de personnes s'attendaient à voir débarquer, excusez-moi du terme, le clochard que l'on voit au carrefour de nos villes. Or, ils ont vu parfois arriver des gens qui avaient une profession, qui avaient une voiture, mais qui, subitement, pratiquement du jour au lendemain, se retrouvaient à la porte d'une famille qui les hébergeait et n'avaient absolument aucun logement. On a vu également débarquer des ménages qui avaient des revenus, mais pas des revenus suffisants pour accéder au logement. Voilà, cet hébergement d'urgence, cet hébergement solidaire, nous a fait découvrir d'autres formes de pauvreté, ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent les nouveaux pauvres. En entendre parler, c'est une chose, le vivre et les rencontrer, c'est autre chose. Ce que nous essayons aussi de créer, d'imaginer, de développer, c'est bien sûr la présence du Secours catholique. Le Secours catholique est présent dans 21 des 41 villes de notre diocèse, ce qui n'est quand même pas rien. Le Secours catholique déploie aujourd'hui beaucoup d'actions, vous le savez, dans des domaines aussi variés que le soutien scolaire, l'aide aux sans-papiers, l'alphabétisation des migrants, l'aide alimentaire sous la forme d'épiceries solidaires, et bien sûr, toujours l'accueil et l'écoute. Ce que nous essayons aussi de développer, de favoriser, ce sont des liens avec la maison d'arrêt de Villepinte. La maison d'arrêt de Villepinte. Je sais qu'il n'est pas de bon ton de dire aujourd'hui qu'une maison d'arrêt est un lieu de pauvreté, parce que tout de suite on vous répond que ces gens n'ont que ce qu'ils méritent, mais j'en suis pas si sûr. La maison d'arrêt de Villepinte, comme toutes les maisons d'arrêt en France, est absolument saturée, prévue à l'origine pour à peu près 500 détenus. Elle en compte aujourd'hui, selon les jours, entre 920 et 930. Dans la maison d'arrêt de Villepinte se côtoient des gens qui viennent de l'Europe et même hors Europe, d'Amérique latine. Souvent, ce sont des personnes qui sont prises à l'aéroport Charles de Gaulle en détenant, bien sûr, des drogues illicites. Nous essayons de multiplier les liens entre la maison d'arrêt de Villepinte et les paroisses, en demandant aux paroisses de porter dans la prière les détenus et en demandant aux détenus de porter dans la prière les paroisses. Nous essayons aussi de multiplier les liens avec le Secours catholique. Derrière tout cela, l'idée de fond, c'est de dire aux détenus, vous n'êtes pas à part, vous faites partie de l'Église diocésaine. Nous célébrons une messe tous les dimanches matins à Villepinte, c'est pratiquement le taux le plus élevé de pratiques religieuses du diocèse, hein, je crois. Hein. Nous avons à peu près 80-90 détenus chaque dimanche, et donc vous voyez, nous sommes pas loin de 10% de la population carcérale. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au cours de l'année de la miséricorde, les détenus qui ont d'autres activités que la messe qui leur sont proposées par l'aumônerie ont médité un texte d'évangile et ont préparé des questions pour l'ensemble du diocèse. Et puis nous avons rédigé un feuillet, puis ce feuillet est parti dans les paroisses du diocèse, si bien que les paroissiens ont pu réfléchir sur l'évangile à partir de questions posées par des détenus. Voilà. C'est intéressant de créer des liens de ce genre-là. Et puis nous essayons aussi de créer des chemins de fraternité avec les migrants qui sont très nombreux dans notre diocèse. Hein. On estime qu'à peu près le tiers de la population sont des migrants dans notre département. Et l'année passée, au mois de juin, nous avons essayer de rassembler toutes les initiatives qui se vivent vis-à-vis des migrants dans un document que nous avons intitulé « Notre fraternité à 1000 visages ». Alors j'en ai ramené une soixantaine ce soir pour que vous puissiez le lire si vous le souhaitez, quand vous en aurez le loisir. Nous avons travaillé ce document avec la pastorale des migrants et le conseil diocésain de la mission ouvrière. Voilà quelques réflexions autour de cet axe de créer, imaginer, inventer, ne pas baisser les bras, se dire que pouvons-nous faire. Deuxième réflexion autour de ce verbe libérer. Et là j'ai envie tout de suite d'ajouter un deuxième verbe qui est le verbe sauver, un verbe qui nous est cher dans notre foi chrétienne. La première libération, c'est celle que nous sommes appelés à vivre, nous tous, que nous soyons pauvres ou riches, c'est une libération que nous sommes tous appelés à vivre, une libération fondamentale, nous libérer de l'image du pauvre que nous portons en nous. Disons-le et redisons-le, le pauvre n'est pas un enfant. N'infantilisons pas les pauvres dans les lieux où ils sont accueillis. Rappelons-nous ce que nous disions à Diaconia 2013, le rassemblement de la solidarité. Le pauvre est capable d'initiative et de se prendre en main. La pauvreté ne prive pas de l'intelligence et de la capacité à agir. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner, disions-nous à Diaconia 2013. Et depuis ce temps, je me réjouis vraiment que le Secours catholique ait le souci que les accompagnés deviennent des accompagnants une fois qu'ils sont sortis du mauvais pas dans lequel ils sont. Et croyez-moi, je peux en témoigner parce que je le vois, c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Dans les antennes du Secours catholique, les accompagnés deviennent des accompagnants. Et l'un des deux vice-présidents au niveau départemental chez nous, mais nous ne sommes pas uniques en ce domaine-là, est aussi quelqu'un qui était passé par une période difficile et qui aujourd'hui en est sorti. Un petit témoignage d'Apolline, qui est engagée au Secours catholique. Je la cite. « Savez-vous ce que c'est de se retrouver dans un environnement où l'on ne vous juge pas ?» Ne vous stigmatise pas. Moi, je le sais. Depuis que je suis au Secours catholique, chaque jour accroît mon plaisir à aider mon prochain sans préjugés. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que cela procure de voir un sourire ou même de l'espoir se dessiner sur le visage des personnes que l'on reçoit. Elles viennent à nous dans un état de désespoir, de tristesse, de mal-être profond. À chaque fois que je vois le chemin parcouru et le résultat, je dis « Waouh, Dieu est merveilleux !» La bonne ambiance et l'amour qui demeure entre nous est admirable. Un seul regret, n'avoir pas fait partie plus tôt de cette grande famille. Essayons de vivre chaque jour notre foi en étant pour notre prochain une source d'eau fraîche en été, une couette douillette en hiver et un parapluie pendant les pluies d'automne. Deuxième libération, recevoir les richesses des pauvres au lieu de seulement vouloir donner les nôtres. Voilà, renverser les positions, ces positions dans lesquelles nous sommes souvent installés à cause de tout ce que nous avons appris ou à cause de préjugés. Recevoir, apprendre à recevoir. Et je voudrais vous livrer ici un très beau témoignage de l'aumônier de l'hôpital psychiatrique de Villévrard, autre lieu de pauvreté, la maladie mentale. Villévrard est un centre important dans notre département, une équipe d'aumônerie y est présente. Et voici le mot que l'aumônier qui va quitter sa fonction après plus de 7 ans de présence, le mot que l'aumônier a adressé aux malades dimanche dernier dans sa messe d'au revoir. Donc il s'adresse aux malades. « Mais vous, dit-il, vous m'avez formé, guidé, éclairé à la façon de chacune et chacun d'entre vous. Ceux d'entre vous que j'ai vus révolter m'ont appris qu'une vraie colère, c'est quand même mieux qu'une fausse douceur et que la révolte ne s'apaise sûrement pas en cherchant à la calmer. Ceux d'entre vous que j'ai vus questionner m'ont appris que les questions ouvrent des chemins nouveaux, qu'il ne faut pas s'empresser de refermer par des vieilles réponses toutes faites. Ceux d'entre vous que j'ai vus en recherche de foi m'ont appris que cette foi est un chemin de liberté vers nous-mêmes, vers les autres et vers Dieu, bien plus qu'une régulation religieuse de notre destin. Tous, vous m'avez appris ce qui fait la valeur humaine de chacun. Tous, vous m'avez appris que ce qui fait la valeur humaine de chacun n'est pas dans son apparence, sa façon d'être ou de bien se tenir, mais de ce qu'il a dans son cœur et ce qui le remue en profondeur de lui-même. Voilà ce que mon ami Jésus m'a permis de vivre avec vous. Avec lui, nous avons cherché, vous et moi, à conquérir ou reconquérir le sens de notre histoire et la vocation de notre vie. Voilà le témoignage de cet aumônier au bout de 7 ans de présence dans cet hôpital psychiatrique. Troisième libération que je voudrais évoquer, il faut se libérer de l'instinct de propriétaire. Voilà. Qu'aucune de nos associations, qu'aucune de nos paroisses, qu'aucun de nos mouvements ne se considère propriétaire de ces pauvres. Intellectuellement, c'est facile, hein. Mais dans la pratique, que c'est difficile de travailler avec d'autres. À nouveau, je vous cite le pape François. Les pauvres n'ont pas besoin de compétiteurs, mais d'un amour qui sache demeurer discret et oublier le bien accompli. Les véritables acteurs sont le Seigneur et les pauvres. Celui qui se met au service est l'instrument entre les mains de Dieu pour faire reconnaître sa présence et son salut. Alors je voudrais ici évoquer ce qui est vécu au mois d'août et que l'on appelle août secours alimentaire. Plusieurs associations se sont rendues compte qu'au mois d'août, eh bien, tout le monde était fermé. Mais les pauvres, eux, ne ferment pas. La pauvreté ne ferme pas, elle est présente au mois d'août. Et donc, sept associations se sont réunies pour assurer durant le mois d'août une distribution de repas à tous ceux qui en avaient besoin. Cette association, intéressant de les nommer pour voir la capacité à travailler ensemble, Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique, le Secours populaire, Habitat Cité, le Refuge, la Croix-Rouge, l'Amicale d'Uni. Voilà, autant d'associations qui ont distribué 67 000 repas durant le mois d'août. ce qui n'est pas rien. Réjouissons-nous quand travailler ensemble permet de vivre un meilleur service des plus pauvres. Et puis au mois d'août, la conférence Saint-Vincent de Paul, qui fait partie de ce réseau, a proposé aussi des murs d'expression. Voilà, il y avait des temps d'accueil aussi de ces personnes qui venaient. On invitait les enfants à faire des dessins, on invitait les adultes à se libérer en quelque sorte en marquant des expressions sur des papiers ou sur des toiles exposées. Alors quelques-unes de ces expressions, en voici une. Au désert de nos vies, on manque trop d'amour. On a soif, mais il n'y a rien ni personne à aimer. Quelle pauvreté affective! Il n'y a rien ni personne à aimer. Une autre personne a écrit « Ce monde est un monde de sécheresse et de silence. » Quelqu'un d'autre a écrit, sans aller plus loin, « Au cœur de notre nuit. » Cette expression aussi que j'aime bien, « On regarde par un trou. » Vous savez, quand la pauvreté nous enferme dans les ténèbres, « Oh là, mais là, il y a un petit trou de lumière, on va regarder ce qui se passe. » Belle expression, on regarde par un trou. Autre expression, sois heureux aujourd'hui. Voilà, savoir profiter du moment de bonheur qui passe, parce que demain, on ne sait pas très bien ce qui se passera. Quatrième libération aussi, pour laquelle nous sommes très sollicités dans le diocèse de Saint-Denis, c'est la libération des forces du mal. Voilà. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont enfermées dans un mal qui les ronge de l'intérieur parce qu'elles pensent qu'elles sont l'objet de malédictions ou de sortilèges. Il nous faut donc, bien sûr, développer les lieux d'écoute pour écouter tous ceux et celles qui se considèrent être sous l'emprise du mal parce que vivant des situations difficiles, des situations de pauvreté, quelles qu'elles soient. Il faut du temps, il faut beaucoup écouter pour permettre à ces personnes de se libérer, pour leur permettre de découvrir de l'intérieur que notre Dieu est plus grand que le pouvoir du mal. Troisième verbe, aimer, mais derrière ce verbe, bien sûr, on pourrait mettre accueillir, respecter, aimer, respecter, accueillir. Première chose évidente, mais nous sommes là pour aimer tous les pauvres, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Il ne s'agit pas d'opposer les pauvres entre eux. Il n'y aurait pas des pauvres nationaux et des pauvres migrants, des pauvres nationaux dont il faudrait s'occuper en priorité et des pauvres migrants qui auraient quelques miettes. Il faut aimer tous les pauvres. Dans cette dynamique de l'amour, il y a bien sûr l'importance de l'accueil. J'en parlais tout à l'heure à propos des personnes qui se considèrent être sous l'emprise des forces maléfiques, des forces du mal, là. Mais l'accueil est primordial. Quelques lignes de témoignage de Guylaine, 53 ans. « Je suis revenu vers Dieu. Voilà maintenant plus de 5 ans, suite à un drame familial suivi du décès de mon père. J'étais vraiment à bout de souffle et en grande tristesse. Personne ne pouvait panser cette plaie qui déchirait mon cœur et mon âme. Une petite voix m'a guidé vers l'église un dimanche. Je dois avouer que j'ai été très surprise du peu de paroissiens lors de cet office. Je n'ai rien éprouvé ce jour-là et je suis reparti aussi triste qu'avant. Quelques mois plus tard, j'ai eu le désir d'y retourner. L'accueil était différent, une bienveillance, un sourire, un regard. On m'avait repéré. Je me suis assise derrière la chorale, l'animatrice a entonné l'Alléluia d'une voix angélique et j'ai été bouleversée. Depuis, chaque dimanche, j'avance doucement, je pense m'appeler auprès de Dieu Il m'aide à ouvrir les bonnes portes et m'oriente vers les bonnes personnes. » Voilà, vous voyez, la qualité de l'accueil, hein, combien ça joue sur les personnes souffrantes. Dans cet accueil de l'autre, dans cet amour de l'autre, je voudrais aussi citer les tables ouvertes. Plusieurs de nos paroisses font des tables ouvertes, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Vous en connaissez le principe, sont les bienvenus tous ceux qui souhaitent s'asseoir pour partager un repas. Nous sommes dans un diocèse où nous aimons beaucoup la convivialité. En dehors de ces tables ouvertes, les moments où les messes dominicales sont suivies de repas ne sont pas rares. Et je trouve cela très bien parce que cela permet à chacun d'apporter quelque chose. Et parfois, en regardant le soin que les gens mettent à la préparation des plats, il me prend à rêver qu'ils puissent prendre le même soin à la préparation de la célébration eucharistique qui a précédé. Mais c'est pas grave, parce que je crois que le repas qui suit est le signe aussi qu'on a offert quelque chose déjà dans la célébration eucharistique qui nous a précédés. Et puis, je ne peux pas être trop long, mais combien aussi les demandes de sacrement, quand elles sont accueillies, quand on prend le temps de les accueillir, je pense à tous ces adultes qui demandent le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, je pense aussi aux jeunes qui demandent la confirmation, quand on prend le temps d'accueillir ces demandes, de s'intéresser à la vie des personnes, là aussi, que de transformation dont nous sommes les témoins. Je ne peux pas vous lire toute sa lettre, mais voilà la lettre d'un jeune qui demande à être confirmé. Il a 16 ans. Alors au début, il me confie que son père est décédé quand il avait 11 ans et qu'il s'est révolté, évidemment, contre Dieu. Alors je vais un peu plus loin dans la lettre. Blessé par la vie, je me suis enfermé sur moi-même. On ne pouvait rien sentir dans mon regard. Mes expressions étaient absentes, mes sentiments aussi par la même occasion. Vous vous rendez compte, un jeune de 16 ans qui écrit ça. Plusieurs fois, ma mère a voulu me placer en famille d'accueil car elle n'arrivait plus à s'occuper de moi. Plusieurs fois, elle a voulu aussi m'envoyer dans notre famille, mais elle ne l'a jamais fait. Je suis un garçon qui se déteste et qui n'a aucune confiance envers les autres comme envers lui. J'ai voulu arrêter l'école pour m'engager, mais encore une fois, on m'en a empêché et on s'est moqué de moi. Ce sentiment de ne pas être aimé, mais d'être détesté me ronge. On ne m'a jamais dit « je suis fier de toi ou tu es une bonne personne ». Et il dit « je me suis retourné vers Dieu en janvier 2018 ». Je crois que c'est le moment où il a rejoint le groupe des confirmants. Et je suis retourné au cathé par la même occasion. J'avais envie de faire ma confirmation. Mais une chose me bloquait, c'était la retraite à Thésée. Je ne voulais pas y aller. Ma mère m'a inscrit à cette retraite et je ne le regrette pas du tout. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureux et épanoui. J'ai pu me retrouver avec moi-même. Et pour la première fois, c'était un vendredi soir après l'adoration, une sœur est venue vers moi. Elle a posé sa main sur mon épaule et elle m'a dit « aujourd'hui, tout ira bien, ne t'inquiète pas, tu es une personne merveilleuse ». C'était la première fois qu'on me disait ça et depuis très longtemps, mes sentiments sont ressortis et je me suis mis à pleurer, je me suis senti libéré. Voilà, je ne vous lis pas toute sa lettre, mais vous voyez la force de ce témoignage et vous voyez l'importance aussi dans l'accueil des pauvretés de pouvoir aussi sortir des jeunes ou des adultes de l'univers dans lequel ils baignent constamment pour leur permettre de vivre un autre type d'expérience. Quand nous emmenons des jeunes de 16-17 ans à Thésée, au bout de 3 jours, 4 jours, on voit que le comportement des jeunes se modifie parce que l'environnement est autre aussi. Alors, en conclusion, mais très brève, je crois qu'effectivement, une église pauvre pour les pauvres, c'est toujours un défi. C'est toujours un défi car on est toujours tenté de penser à la place des pauvres. On est toujours tenté. Plutôt que d'écouter, on est tenté de penser et d'agir immédiatement. Je pense que pour résister à cette tentation, il faut laisser toute la place à la prière, et notamment, bien sûr, la prière du Notre Père, qui nous ouvre à l'écoute et au geste de partage. Et puis, je fais une petite page de publicité. Je vous invite, si vous êtes disponible, le samedi 20 octobre, à venir à la salle paroissiale de Saint-Germain-l'Auxerrois à Pantin, c'est pas loin d'ici. De 9h30 à 12h30, nous aurons un temps sur la solidarité dans notre diocèse. Des jeunes viendront témoigner de la manière dont ils vont à la rencontre des sans-abri. Nous aurons une intervention de Bénédicte Madelin qui a dirigé Profession Banlieue entre 93 et 2014 sur la pauvreté en Seine-Saint-Denis, une invitation à regarder au-delà des chiffres. Et puis, nous présenterons un petit livret que nous allons diffuser dans notre diocèse afin que chacun réalise que la solidarité et la charité sont vraiment des éléments constituants de notre foi, un petit livret qui s'intitule « Vivre le service du frère, une source dans ma vie et ma foi chrétienne ». Donc si vous êtes là le samedi 29 octobre, le matin, nous vous accueillerons avec joie à la salle Saint-Germain à Pantin. Merci.
Et un très très grand merci Père Delannoy, parce que je crois que vous nous avez fait entrer dans la réalité vraiment de votre diocèse, à la fois avec des données objectives, on peut dire, mais aussi à travers toutes les citations que vous nous avez données. Vous nous avez fait entrer dans ce que les personnes du 93 ont dans le cœur. Voilà. Je suis très touché d'entendre à quel point combien nombreuses ont été les textes des personnes que vous avez citées. Et je me dis que si un évêque cite des personnes marquées elles-mêmes par la grande pauvreté, c'est bien le signe qu'il y a une sorte d'autorité de ces personnes-là pour toute l'Église, il me semble. Ils ont quelque chose de très fort à nous enseigner. Voilà. Je vous propose qu'on prenne 5 minutes chacun avec son voisin, simplement pour que vous puissiez dire comment ce que vous avez entendu là résonne avec des choses que vous avez vécues ou dont vous avez été témoin ou que vous désirez. Voilà. On prend ce petit temps-là et ça permettra aussi aux uns et aux autres d'élaborer leurs réactions, leurs questions, et après ça, on prendra ce temps pour partager tout ça avec le Père Delannoy. Voilà.
Merci beaucoup. Père Delannoy, de ce témoignage. Donc, je suis David, jésuite. J'appartiens à votre diocèse puisque je vis à la communauté basilique. J'étais touché à la fois par ce que vous avez dit de la pauvreté effective, mais aussi de la richesse effective de ce diocèse, notamment dans ce triptyque créer, libérer et aimer. Voilà, et ça m'a rejoint, parce que moi-même, notamment ce que vous avez dit de la maison d'arrêt de Villepinte, parce que moi-même j'interviens à la maison d'arrêt, et il y a beaucoup de richesse que d'écouter les détenus, notamment dans le groupe biblique. En fait, finalement, j'avais une seule question, c'était quelle est votre joie en tant qu'évêque, en tant que pasteur de cette communauté. Voilà.
On peut peut-être prendre plusieurs questions à la suite, donc je vois d'autres.
Si. Oui, Père évêque, votre diocèse, d'après ce que vous nous avez dit, et ça on le sait bien parce qu'on a vécu juste à côté, est très pauvre. Et je suis surprise de vous entendre dire que dans le créé, vous avez des communautés de quartier. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ces communautés de quartier, par qui elles sont constituées, celui-là. Et puis, parce que je me dis, quand on est pauvre, comme vous l'avez dit, et ça on le sait bien que c'est vrai, après vous parlez d'hébergement solidaire. C'est pareil. Comment comment se crée un hébergement solidaire, qui s'en occupe, voilà, parce que dans nos paroisses, c'est toujours ça. On veut bien faire des choses, mais il n'y a pas grand monde qui répond.
Bonsoir, je m'appelle Martin Mayer, je suis jésuite allemand, mais avec une longue histoire avec le Salvador. J'étais très touché par tout ce que vous nous avez dit, et en fait, j'ai pensé aussi à Monseigneur Romero, qui sera canonisé prochainement. Mais en pensant à Monseigneur Romero, il m'est venu aussi la question du côté prophétique de l'Église. Il a guéri les blessures d'un côté, mais d'autre part, il a dénoncé aussi l'injustice, les structures injustes. Vous avez parlé de la pauvreté structurelle, et je crois que pour attaquer les causes, il faut prendre aussi une attitude prophétique. Où est-ce que vous voyez les possibilités et les devoirs de l'Église dans cette perspective?
Voilà, on vous laisse la parole.
La joie du pasteur, c'est la joie de voir l'Évangile qui fait son chemin dans le cœur des personnes. Et là, vraiment, personne n'est trop pauvre pour recevoir et accueillir l'Évangile. Chaque année, j'ai la grâce de lire entre 150 et 200 lettres d'adultes qui demandent le baptême. Et quand je lis ces lettres, je me dis, mais comment ces gens ont fait pour tenir le coup? Parce que tout ce qu'ils décrivent, c'est souvent des chemins difficiles, des chemins d'embûches. Et je me dis, mais si miraculeux que la foi et pu creuser son sillon dans de telles situations. Vraiment. Ça, c'est toujours pour moi une action de grâce importante que de lire ces lettres et de découvrir le chemin que Dieu prend pour se dire aux hommes et se révéler aux hommes. Ma joie de pasteur aussi, c'est la fraternité, la très grande fraternité qui règne dans ce département. On n'en parle pas parce que ça n'intéresse personne, mais il y a une réelle fraternité entre les personnes. Les gens font attention les uns aux autres. Voilà. On ne vit pas dans l'indifférence. Bien sûr qu'il y a des lieux où on vit dans l'indifférence, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont attentifs les uns aux autres. Il y a une réelle fraternité. Ça aussi, c'est vraiment une grande joie. Et puis, je m'arrêterai là dans les joies, mais l'autre joie aussi, c'est bien sûr de voir les jeunes de ce diocèse qui ont le souci d'approfondir leur foi, d'en témoigner, d'en rayonner. Hein? C'est pas facile hein, d'être jeune aujourd'hui. C'est pas facile parce que c'est pas facile au niveau de l'emploi. C'est pas facile au niveau des études. Et quand on est chrétien, c'est pas facile non plus de témoigner de sa foi. Pensez à ces jeunes qui doivent témoigner d'une foi en un Dieu trinitaire devant leurs amis qui sont musulmans. C'est quand même un exercice très difficile. Mais je suis admiratif de ces jeunes qui veulent creuser, qui veulent approfondir leur foi justement pour la vivre davantage et en témoigner. Les communautés de quartier, vous entendez peut-être un autre nom là qui nous vient d'Amérique latine et qui a peut-être résonné déjà aujourd'hui ou qui résonnera demain, les communautés ecclésiales de base. Hein. Finalement, une communauté de quartier, c'est cela, c'est une communauté de base. Alors, comment est venue l'idée? Quand je suis arrivé dans le diocèse en 2009, j'ai poursuivi la visite pastorale des cités que mon prédécesseur avait commencé, et à plusieurs reprises, en plusieurs lieux, des personnes, donc des chrétiens, m'ont dit « Vous savez, la paroisse, elle est un peu loin, et on aimerait bien se retrouver entre nous, en dehors de la messe. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est là qu'est née l'idée de ces communautés de quartier, autrement dit l'idée de se retrouver dans une grande proximité géographique, encore une fois, parce que le soir, les déplacements sont compliqués, donc se retrouver dans une grande proximité géographique pour avoir un temps d'échange, on peut un peu vider ce qu'on a sur le cœur, un temps de prière et de méditation de l'Évangile. Alors de temps en temps, il peut y avoir un prêtre, pas forcément toujours. Nous avons réuni les animateurs l'année passée au mois de juin, ils étaient une quarantaine. Voilà, donc nous continuons à creuser notre sillon dans ce sens-là. L'hébergement solidaire, ce qui est très important, c'est que nous ne travaillons pas seuls. Autrement dit, les personnes que nous accueillons, ce n'est pas des personnes qui viennent spontanément frapper à notre porte. Elles nous sont envoyées par le Secours catholique qui travaille avec le 115. Donc nous nous appuyons sur des structures d'accompagnement. Le but étant que les personnes accueillies ne retournent pas à la rue ensuite et que le fait de profiter d'un hébergement solidaire permette aussi de traiter leur situation administrative ou financière pour trouver une solution lorsqu'elles quitteront cette forme d'hébergement solidaire. Voilà. Donc c'est très important, même si c'est parfois très difficile, de résister à ce que j'appelle, moi, la solidarité coup de cœur. Vous savez, la solidarité coup de cœur, quelqu'un est là, est à la rue, et la tentation, c'est de dire « vous entrez », etc. Mais si on n'a pas derrière une structure d'accompagnement, ça devient ensuite très difficile parce que tout repose sur les épaules d'une seule personne. D'une seule personne. Et ça devient très difficile. Et ce qui était une joie au début peut très vite alors se transformer comme un fardeau pesant. Hein ? Et on peut très bien détruire deux personnes au lieu d'essayer d'avancer ensemble. Donc si vous faites l'hébergement solidaire, je ne peux que trop vous recommander, bien sûr, de le situer dans une structure d'accompagnement. La question prophétique de l'Église, vous avez tout à fait raison. Hein. À travers des communiqués, des textes, nous pouvons dire des choses. Dans les homélies, nous pouvons dire des choses. Hein. Alors moi j'ai le projet d'aller rencontrer un ou deux députés, par exemple, qui suite à la publication de ce rapport sur la scène Saint-Denis. D'essayer de voir un peu comment on peut provoquer une rencontre là-dessus. Je sais aussi que les élus du département, suite à ce rapport, ont été voir le ministre de l'Intérieur quand il était encore en poste. Hein. Donc, pour essayer justement de faire avancer des choses. Mais vous avez raison, la parole prophétique est également importante. Et heureusement, elle est aussi relayée par les chrétiens aujourd'hui, oui.
Merci beaucoup. On va pouvoir prendre une deuxième comme ça série de questions ou de réactions.
Je m'appelle Luis Martinez. On a partagé tout à l'heure. D'abord, merci. C'est toujours enrichissant d'écouter qu'il y a des communautés chrétiennes avec un pasteur qui s'engage de cette façon simple mais très évangélique à côté de ceux qui sont souffrants, délaissés, en manque. Mais nous avions ici un petit échange et il y avait la question de l'interreligieux. Vous êtes aussi confronté à cette question. Il y a beaucoup de migrants, de musulmans, de chrétiens évangéliques. Et donc, comment vous vivez cela? Est-ce qu'il y a aussi des échanges, des synergies qui se créent, etc. Merci.
Je m'appelle Geneviève et j'ai vécu longtemps près de Saint-Ouen. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire ce monsieur. Il y a aussi, je crois, beaucoup de communautés juives et bien sûr musulmanes. Est-ce que vous travaillez avec eux? Et puis, une deuxième question très bête. Comment vous faites, parce qu'il y a quand même des riches à Saint-Denis, à Saint-Ouen et dans d'autres villes du 93, ou comment on fait pour évangéliser les riches? sans savoir ce que c'est clair.
Moi, je vais peut-être ajouter une question aussi. C'était autour de Diakonia 2013, il me semble qu'un des points d'attention, c'était de comment sortir du phénomène de sous-traitance. Comme souvent dans l'Église, on a tendance à vivre la solidarité sur le mode de la sous-traitance, c'est-à-dire en disant ben, la solidarité, ah ben, c'est le Secours catholique qui s'en occupe. Moyennant quoi, la communauté elle-même n'est pas tellement touchée ou moins touchée. Alors, est-ce que là-dessus, vous voyez des pistes pour aller dans ce sens-là, pour faire que ce soit davantage l'ensemble de la communauté chrétienne qui puisse s'engager en ce sens-là et aussi bénéficier en retour de ce qu'elle peut recevoir de la part des personnes très pauvres. Voilà.
L'interreligieux est évidemment très présent dans le département de la Seine-Saint-Denis. Vous savez tous qu'en France, on ne peut pas faire de statistiques sur l'appartenance religieuse. On estime autour de 500 000 les personnes de culture musulmane en Seine-Saint-Denis. J'insiste toujours pour parler de culture musulmane, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les médias, vous allez finir par croire que tous les musulmans sont des pratiquants réguliers à la mosquée le vendredi. Hein ? C'est loin d'être le cas. Le signe d'identité des musulmans, ça reste bien sûr la pratique du ramadan, qui est très forte. Et puis la communauté juive également, hein, qu'on estime autour de 35 000, 40 000 là, donc qui est aussi bien présente. Il y a un dialogue qui se réalise, qui est souvent, très souvent, et je trouve que c'est très bien, au niveau local. Parce que vous le savez, chaque communauté musulmane à son indépendance, son autonomie. Il n'y a pas un responsable pour tout le département que l'on pourrait rencontrer. Donc très souvent, les rencontres, le dialogue se fait au niveau local. Il y a des lieux avec lesquels il n'y a pas de dialogue. Voilà, ça n'intéresse pas, ou pour des raisons diverses et variées, il n'y a pas de dialogue. Il faut le dire aussi très clairement. Chaque année, nous avons aussi une rencontre que nous appelons une rencontre imam-prêtre. Donc l'idée, c'est que chaque imam vient avec un prêtre, ou chaque prêtre vient avec un imam, comme vous voulez, hein, vous le prenez dans le sens où vous voulez. Et donc là aussi, ça permet un échange assez riche. Et cette année, nous allons commencer de manière tout à fait originale, puisque je vais accueillir ce groupe sur les marges de la basilique cathédrale Saint-Denis, pour leur faire découvrir notre basilique cathédrale. Alors vous devinez, plus pour la faire découvrir aux imams qu'aux prêtres catholiques, tout au moins je l'espère. Voilà. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, le dialogue interreligieux est difficile, parce qu'il n'est pas porté par un climat favorable aujourd'hui. On n'est plus dans un climat de méfiance que dans un climat de confiance. Hein. Et de plus en plus de chrétiens disent que nous sommes bien naïfs de vouloir dialoguer avec les musulmans. L'autre souci dans ce dialogue pour moi, c'est d'intéresser la génération des plus jeunes à ce dialogue. Et là, croyez-moi, c'est un très gros défi. Hein. Quand nous rencontrons des frères musulmans, la jeune génération est présente. Chez nous, le dialogue interreligieux, on a l'impression qu'il faut au moins avoir 50 ans, voire 55 ans. Hein, et qu'en dessous, c'est difficile, quoi. Hein, c'est quand même un souci, ça. Comment intéresser une jeune génération au dialogue interreligieux? Alors, on en voit bien la difficulté, parce que le dialogue interreligieux demande de bien posséder les bases de sa propre foi. Hein. Mais c'est une question. Et puis nous avons parfois aussi des rencontres tripartites, je ne sais pas comment il faut dire, juifs, chrétiens et musulmans, dont nous sommes la plupart du temps à l'initiative. Alors nous essayons d'avoir ces rencontres autour de thèmes comme la pratique de la prière, la pratique de la charité dont on vient de parler ce soir. Les pèlerinages également étaient un thème que nous avons abordé ensemble. Au niveau de la prise en charge de la solidarité, je pense que Out Solidaire, à un moment donné, il y avait le Croissant Rouge également qui s'était associé à l'action. De temps en temps, hein, il y a des liens qui se font avec le Croissant Rouge. Mais ça reste, il faut reconnaître que ça reste très, très timide encore, hein, très timide. Mais il y a peut-être des personnes de la Seine-Saint-Denis qui ont connu d'autres initiatives interreligieuses dans le domaine de la charité, non ? On reste.
Je crois qu'à Saint-Denis, il y avait le Secours islamique qui collaborait avec le Secours catholique pour des petits déjeuners des déjeuners les week-ends, je crois, pendant les week-ends. Voilà.
Alors, comment évangéliser les riches ? Surtout pas en faisant la morale, ça c'est clair. Je crois que c'est l'Évangile, je crois profondément que c'est l'Évangile qui doit faire son chemin dans le cœur de chacun. Je crois aussi que quand même les chrétiens sont en général généreux. Quand on fait appel à eux pour des situations de détresse, en général il y a une réponse importante. Alors ça peut être une réponse sous forme de dons matériel, mais ça peut être aussi une réponse en disponibilité de temps. Hein? Mais oui, la question reste toujours posée. Hein? Hein? Si nous lisons l'Évangile, le riche doit sans cesse être sur un chemin de conversion. Pour le dire positivement, être riche, c'est une grande responsabilité dans l'Évangile. Grande responsabilité. Quand j'étais jeune prêtre, j'avais été à l'hôpital voir un monsieur âgé qui avait 92 ans, mais parfaitement lucide, donc qui devait avoir un certain patrimoine. Et je lui dis comment ça se passe, et il me dit « Oh, vous savez, à mon âge, évidemment, on fait un tas d'examens, alors rien ne marche... Rien ne va très mal, mais rien ne marche plus très bien non plus. » Bon, et alors, après, il me parle de sa vie, etc. Et je lui dis, vous avez eu une vie quand même intéressante, passionnante. Il me dit, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, comme j'ai beaucoup reçu, qu'est-ce que je vais devoir répondre à Dieu maintenant ? Voilà, hein, cette richesse qui nous met dans une situation de responsabilité, oui, de responsabilité. Et puis l'évangélisation aussi, alors je parlais de l'Évangile, mais le petit frère de l'Évangile, c'est la doctrine sociale de l'Église. Sûrement nous devons faire connaître davantage la doctrine sociale de l'Église, ce qu'elle dit de l'utilisation des biens de la terre, ce qu'elle dit du bien commun. Hein, je trouve que la doctrine sociale de l'Église est encore méconnue, largement méconnue. Alors comment sortir du phénomène de sous-traitance ? Comment permettre à toute la communauté chrétienne d'entrer dans cette démarche ? J'essaie d'encourager les chrétiens qui sont diversement engagés, parce que vous avez aussi beaucoup de chrétiens qui sont engagés dans des associations séculières, profanes. J'encourage à partager tout cela lors des assemblées paroissiales. Voilà, j'essaie de tout faire pour que chaque année, toutes les paroisses aient une assemblée et que dans ces assemblées, les chrétiens puissent prendre la parole et donner écho de ce qu'ils perçoivent à travers l'engagement qu'ils peuvent prendre au cœur de leur vie. Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, c'est que les prières universelles de nos assemblées dominicales soient construites à partir de ce que vit et perçoit la communauté. Trop souvent, je trouve, on prie pour les personnes en situation difficile, en situation de précarité, en situation de pauvreté, mais une fois qu'on a dit ça, on ne met pas des visages derrière, on ne met pas des situations précises derrière. Je trouve qu'on aurait intérêt à travailler nos prières universelles à partir des réalités que nous découvrons, et à partir de là, élargir notre prière. Et puis, pour aller dans le sens de cette prise de conscience aussi, élargir notre regard, nous sommes en train de mettre en place un jumelage avec un diocèse d'Afrique, du Congo Brazzaville, le diocèse d'Owando. Parce que, là aussi, intellectuellement, nous savons bien que l'Église, elle est universelle et que nous devons avoir le souci de tous, mais si on ne le concrétise pas de façon précise, cela risque de rester une belle idée. Donc nous avons choisi de nous jumeler avec le diocèse de Wando, et le 14 octobre nous fêterons Saint-Denis, l'évêque de Wando sera là, sera présent, et nous allons signer la convention de jumelage. Nous avons déjà commencé à travailler ensemble, par exemple, au niveau de l'éducation, avec l'enseignement catholique. Donc c'est un moyen de sensibiliser des enfants, des adolescents, des jeunes, de multiplier les échanges, d'ouvrir à un autre horizon. Voilà, il y a un petit peu tout cela que nous essayons de mettre en place pour qu'effectivement la question de la charité, de la présence aux plus démunis, soit bien présente au cœur de nos assemblées.
Eh bien, je pense que... Enfin, on avait annoncé la soirée jusqu'à 21h. Moi, j'aurais bien continué, mais comme... il faut respecter ce qu'on a annoncé. Donc, un très, très grand merci. Père Delannoy. Et puis vous allez fêter donc bientôt la Saint-Denis. Et donc ça sera officiellement dans le diocèse le 14
alors octobre. Le 14 octobre, à 14h30 dans la salle paroissiale Saint-Denis, qui est en face quasiment de la basilique cathédrale, nous aurons un temps de présentation du diocèse de Wando par l'évêque du lieu. Nous aurons également un petit compte-rendu de la direction diocésaine de l'enseignement catholique qui a été là-bas. Nous écouterons aussi des prêtres qui sont actuellement chez nous. Et puis à 16h30, la célébration solennelle de la fête de Saint-Denis, à laquelle vous êtes tous invités, bien entendu.
Merci beaucoup. Grand, grand merci.
Merci à vous également. Bonne soirée. Merci beaucoup.
Donc demain nous nous retrouvons à... c'est 9h, je crois. À 9h. Hein, c'est ça, voilà. Alors, très bonne fin de soirée à vous.
Bonsoir, Agnès.
Agnès, elle est... Oui.
On est arrivé, Agnès, donc oui.
Je m'en réjouis.